Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Pascal Marcaggi.
Le cas est classique. Nous choisissons de boire de l'eau minérale d'une bouteille en plastique, un plastique qui contient du bisphénol A, car nous pensons que l'eau du robinet contient des substances chimiques type pilule contraceptive. Or, cela est faux désormais, et nous absorbons en revanche du bisphénol A, un perturbateur endocrinien, en croyant bien faire. Les perturbateurs endocriniens sont ces molécules qui endommagent le système hormonal de l'être humain, non pas seulement son système reproductif, mais de régulation, et ce, de façon irréversible. Le 13 décembre 2013, l'Union européenne aura fixé sa réglementation en la matière. Cette réglementation doit en premier lieu définir ce qu'est un perturbateur endocrinien. Une option existe, reprendre la définition de l'OMS pour l'Organisation mondiale de la santé. Un perturbateur endocrinien a un effet d'altération et a des effets adverses pour la santé. Depuis bientôt 10 ans, depuis le plan REACH, depuis l'interdiction de certains pesticides, mais toujours, disons-le, dans un contexte de certains lobbies, l'Europe va-t-elle cette fois dans le bon sens, et ce, suffisamment rapidement? Telle est la question centrale qui se pose aujourd'hui. Michèle Rivasi, députée européenne et co-auteure du rapport intitulé « Protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens ».
L'Europe, depuis 1999, a lancé une grande stratégie sur les perturbateurs endocriniens. Et là, la dernière ligne droite s'arrête en 2013. C'est-à-dire qu'en 2013, on devra avoir une définition précise des perturbateurs, les critères et les tests employés, pour que, en amont, avant qu'un industriel ne mette ses produits dans le cadre des biens publics, sachant tous les risques liés aux perturbateurs, que ce soit l'obésité, que ce soit le diabète, que ce soit les cancers du sein, de la prostate, les malformations au niveau des appareils génitaux, des fœtus mâles, etc., il faut qu'on sache si oui ou non c'est un perturbateur endocrinien. Et après, c'est mis dans les réglementations d'un point de vue transversal, c'est-à-dire ça va toucher les réglementations sur les biocides, vous voyez tout ce qui est détergent, etc. Ça va toucher les cosmétiques, ça va toucher les jouets, ça va toucher les pesticides, parce qu'il faut vraiment qu'on réagisse en amont avant que tous ces produits soient mis dans le public.
Contrairement aux substances toxiques, les perturbateurs endocriniens n'agissent pas selon le principe « la dose fait le poison », mais ils agissent selon une fenêtre d'exposition à partir de laquelle ils enclenchent des mécanismes d'action alors très différents. Exemple avec la famille des PCB qui contient 209 molécules, chacune enclenche un mécanisme qui lui est propre. Gilles Nalbonne, du réseau Environnement Santé.
La dose fait le poison, c'est la toxicologie classique. Plus effectivement la dose augmente, plus vous allez entrer dans un effet toxique. Or, avec les perturbateurs endocriniens, c'est un tout autre mécanisme. Vous pouvez avoir des effets qui sont plus forts à faible dose qu'à forte dose. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile d'évaluer l'effet d'un perturbateur endocrinien par rapport à sa dose. Le deuxième problème aussi, c'est l'effet cocktail. On n'est pas exposé à un seul perturbateur endocrinien. On est exposé à plusieurs dizaines de perturbateurs endocriniens. Donc, définir une dose, de dire en dessous de cette dose, il y a un effet, en dessous de cette dose, vous êtes tranquille, c'est totalement illusoire.
Pour le citoyen, entre guillemets, lambda, la préoccupation est bien sûr de savoir s'il va ou non contracter, dans le pire des cas, un cancer. C'est toute la différence risquée entre une molécule mutagène et une molécule cancérigène. Jean-Pierre Cravedi, aujourd'hui chercheur à l'INRA.
Encore une fois, ce que l'on connaît des perturbateurs endocriniens, c'est des modes d'action extrêmement complexes. Pour un certain nombre d'entre eux, effectivement, on peut faire le parallèle entre mutagène et ensuite effet sur le cancer. Pour certains perturbateurs endocriniens, on sait qu'ils ont un effet sur la reproduction. Aujourd'hui, on sait que des choses ne sont pas si claires que ça. Les perturbateurs endocriniens ne sont pas exclusivement des reprotoxiques. Il y en a qui agissent sur le comportement, il y en a qui agissent sur le métabolisme, d'autres qui agissent sur la fonction thyroïdienne. On a vu sur des cibles comme les glandes salivaires ou les mailles des dents. Donc voilà, on a vraiment une multiplicité d'effets, d'où la difficulté d'évaluer le risque qu'il représente.
Mars 2013, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, rendra son avis scientifique avec portail internet interactif mis à disposition, précisément sur la définition des perturbateurs endocriniens. Or, confère l'épisode du bisphénol A, longtemps dénié à la fois par l'Europe et par la France, qui l'interdira à partir de 2015. Là, les ONG et le réseau Environnement Santé ne sont pas d'accord. Elisabeth Rufinengo de l'ONG Women in Europe for a Common Future avec les perturbateurs endocriniens. Pour le moins, c'est un peu comme avec le dopage dans le sport. La législation a toujours un métro de retard.
Alors, si vous voulez, oui, actuellement, le système qu'on a, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les scientifiques et donc les personnes chargées de réglementer les produits courent après ce qui est déjà sur le marché. Parce que les substances sur lesquelles on travaille maintenant, c'est les substances auxquelles on est exposé depuis 20, 30 ans, voire plus. Les nouvelles qui sont mises sur le marché, comme par exemple des nanotechnologies, elles ne sont pas encore évaluées parce qu'on manque de méthodes de test, on manque d'informations et donc la réglementation patine aussi. Donc on a toujours un temps de retard.
En question, bien sûr, les conflits d'intérêts. Eh bien, c'est un défaut de vision de ces intérêts en question, plaide Michel Rivasi. Récemment, quelques 16 000 jouets pour Noël ont été interdits en France. La protection de la santé devrait rimer avec réindustrialisation.
C'est vrai que ça touche, si vous voulez, tout le lobby de l'industrie chimique. Parce que vous avez toute la partie pesticides. Et là, il y a une quantité importante dans les pesticides de perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans notre alimentation. Ça touche tous les produits qu'on met, voyez, sur des canapés pour faire en sorte à ce qu'ils ne s'enflamment pas. Tous les produits qui contiennent du plastique parce qu'il y a des phtalates à l'intérieur et du bisphénol. Alors c'est vrai que l'industrie se dit mais on n'a pas les produits de substitution. Sauf que ce que je leur dis à l'industrie, c'est que comme ça va être une réglementation européenne, ils ont intérêt à développer de la recherche et développement pour trouver des produits de substitution. Et ils seront fer de lance par rapport à d'autres produits qui viennent partout dans le monde. Si on veut réindustrialiser l'Europe, il faut bien passer par des produits qui sont bons pour notre santé et taxer les produits qui ne le sont pas ou les éliminer de l'Europe parce que ça va toucher la santé des citoyens européens. Donc il y a un vrai enjeu industriel, il y a un vrai enjeu de recherche et développement, il y a un vrai enjeu de santé publique.
Conflit d'intérêts, lenteur. Une lenteur qui n'est pas propre aux perturbateurs endocriniens. Gilles Nalbonne.
Les premières alertes sur le bisphénol datent de 1999. Et vous voyez, on est en 2012 et on commence à peine à interdire le bisphénol A en France. Ce n'est pas encore interdit dans d'autres pays. Donc vous voyez, il y a l'exemple de l'amiante, par exemple. Donc ça a été très long aussi pour le faire interdire. L'exemple des PCB, ça a été très long aussi pour arriver à une interdiction. Donc je crois qu'il y a, un véritable problème de décision qui sont prises avec retard par rapport à un problème de santé publique. Et là, il y a vraiment des choses à faire bouger très rapidement.
Parmi les mesures à la portée de tout le monde, préférez par exemple le verre plutôt que le plastique pour l'emballage alimentaire. Une saine mesure de précaution, rappelait Gilles Nalbonne. Parmi les choix politiques, rappelez aux industriels qu'ils sont d'abord des citoyens, soulignait Michel Rivasi.
C'était un reportage réalisé par Pascal Marcaggi.